voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission s'appelle La Voix du Kaizen. Dans cette série, la thématique, c'est la paysannerie, c'est l'agriculture. On fait un peu un tour de France pour rencontrer différents producteurs en polyculture, en maraîchage, en élevage. Et là, je suis avec Yézid. Donc Yézid, l'idée, c'est de te rencontrer, faire un peu un échange pendant une demi-heure. On va savoir un petit peu ce que tu as. Quel est ton projet et comment est-ce que tu en es venu au maraîchage?
Bonjour et bienvenue ici à Montferrier-sur-Lèze, entre la mer et les Cévennes, dans un petit coin de paradis bio.
Ouais, on va se balader, mais peut-être juste là, avant qu'on commence la visite, là on est dans une tente et je vois pas mal de choses. C'est quoi ça? C'est ton lieu de vente, c'est ça? Donc t'as un lieu de production et au même endroit t'as un lieu de vente.
Exactement, 100% nous de nos productions part en vente directe ici à la ferme. En gros, on a commencé notre commercialisation par faire des paniers. On a beaucoup de types de productions différentes. Avec ces productions-là, on compose un panier et nos adhérents viennent chercher un panier par semaine pendant un trimestre. Ils s'engagent, ils nous règlent en avance, ce qui nous a permis au tout début de bénéficier de la trésorerie indispensable pour commencer. Et puis, alors, ils viennent chercher ici dans la tente les paniers qu'on compose nous-mêmes. Donc là, vous en avez ici. On a trois tailles de paniers différents. Et puis, quand ils viennent le chercher, on leur propose d'échanger jusqu'à trois produits du panier contre d'autres de l'étal pour qu'ils puissent adapter leur panier à leur réalité de consommation. Typiquement, je sais pas, j'aime pas les épinards. Le papy m'a donné des pommes de terre. Donc, ils échangent l'un contre l'autre. Et comme ça, ils repartent avec leur panier qui leur conviennent.
Top. Allons faire un tour du lutin jardin.
Allez, on y va, c'est par là.
Donc on quitte le lieu de vente direct et on se retrouve tout de suite entouré par des vignes. Tu les connais un peu tes voisins là ?
Oui, absolument, je les connais bien même d'ailleurs parce que la première parcelle que j'ai eue historiquement, c'est un de mes voisins qui m'a laissé l'exploiter. Il venait d'arracher une de ses vignes, quoi. Et il m'a dit, bon, je vais rien faire avec ce morceau-là, est-ce que ça t'intéresse ? Alors c'est le domaine Puech à Saint-Clément-la-Rivière et c'est grâce à eux qu'on a pu démarrer il y a 11 ans de ça maintenant. Sur la petite parcelle qui est là, qui fait 5000 m². 11 ans que je suis installé ici. Les 8 premières années, j'ai fait ça un peu tout seul avec des renforts de main-d'œuvre. Et puis, mon épouse Elodie m'a rejoint il y a maintenant 3 ans parce que ça commençait à bien marcher et qu'on avait besoin de... C'était un projet de couple à la base. Et donc, il était temps qu'elle me rejoigne.
Ouais. Est-ce que tu peux me parler de l'origine du projet ? Pourquoi est-ce qu'il y a 11 ans, tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans le maraîchage et en plus de ça, bio ?
Eh bien, écoute, moi, il y a 11 ans de ça, j'étais à Paris comme régisseur général dans la production audiovisuelle. Je faisais Un gars, une fille, si tu connais Chouchou et Loulou, je faisais ça comme régisseur général pendant plusieurs années. Et puis, la vie parisienne m'oppressait un petit peu parce que je suis né ici à Montpellier et j'avais envie de repartir sur un projet qui ait du sens, qui se rapproche de mes valeurs à moi. Quand j'étais petit, j'étais éclaireur de France, donc j'étais tous les week-ends fourré dans la nature sur des projets qui défendaient le développement durable, le bien vivre ensemble, etc. Et donc j'ai voulu à terme moi avoir un métier qui allait dans cette veine-là. Donc à Paris j'ai rencontré mon épouse et puis ensemble on a porté ce projet et on est redescendu s'installer ici. J'ai fait ma formation en agriculture conventionnelle et ça c'est important parce que ça finit d'ancrer mon idéologie sur... J'ai vu tous les dangers et les tenants et les aboutissants d'utilisation de ces produits chimiques dans les parcours de production, les dangers que ça pouvait avoir à la fois pour celui qui les utilise mais derrière pour les consommateurs. Moi, mes consommateurs, c'est mon cercle proche. Mes premiers consommateurs, c'était mes parents, les amis de mes parents, etc. Par défaut, je voulais pas leur faire prendre de risques et je voulais pas en prendre moi-même. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu, dès le début, m'installer en agriculture bio, quoi.
Tu parles de risques, hein, que tu me dis, tu as vu les risques dès le départ. Pourquoi toi, tu les vois et d'autres ne les voient pas ? Qu'est-ce qui fait que certains voient ces risques et d'autres n'en prennent pas considération ?
Écoute, alors là, je serais pas bien de te répondre. Pourtant, ces risques, ils sont clairement affichés. Dès que tu prends un produit phytosanitaire dangereux, tu tournes la boîte, il y a toute une signalétique de tête de mort, de danger pour les poissons qui vont crever, pour les insectes, etc. C'est déjà clairement lissé et explicite. Après, je crois qu'aujourd'hui, on a fait du chemin et qu'il y a X études qui démontrent les dangers de ces pollutions-là et surtout de l'accumulation successive de toutes ces pollutions, que ce soit la peinture, le revêtement de la maison ou que ce soit les pesticides accumulés dans les fruits et légumes. Donc pour moi, c'était complètement clair. Pourquoi d'autres ne le voient pas, je pense parce qu'ils n'ont pas forcément envie de le voir, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Aujourd'hui, il y a quand même un engouement pour tout ce qui est agriculture bio, on parle de permaculture, on parle d'agroécologie. Toi, 11 ans, il y a 11 ans, quand tu es arrivé, tu disais ici, c'était de la vigne, on l'a arraché, donc il fallait maintenant repenser sol, restructuration des sols pour pouvoir développer ton maraîchage. Comment tu t'y es pris ?
Alors absolument, derrière la vigne, c'était un peu compliqué parce qu'on était sur des sols pauvres, mais remonter la fertilité des sols en agriculture bio, c'est quelque chose sur lequel on avait déjà des pistes. Il y a 11 ans, moi, je ne me considère pas comme un pionnier de l'agriculture biologique. Je fais partie des premiers qui ont développé ça. Mais il y avait déjà depuis 30-35 ans des gens qu'on traitait d'illuminés qui avaient déjà expérimenté. Alors, je m'en suis inspiré. Je suis allé voir comment ils ont fait. Et on a trouvé pas mal de méthodes. Alors, nous, ici, on a deux stratégies principales de fertilisation et de remontage de la fertilité des sols. La première, c'est l'utilisation d'engrais verts. C'est-à-dire pendant la moitié de l'année, on plante pour nos clients. Pendant l'autre moitié de l'année, on plante pour notre sol et pour que ce soit ce sol-là qui s'enrichisse. Et ensuite, c'est l'autofabrication de compost. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a couplé la production végétale et la production animale. Parce que grâce à la présence de ces animaux, en l'occurrence les brebis et les poules pondeuses, on peut refabriquer du compost qu'on va faire à l'aide des vers de fumier, le lombricompost. Et on arrive en six mois à autoproduire le compost dont on a besoin pour nourrir nos plantes. L'an dernier, on a autofabriqué 70% de notre compost.
Ok, donc ici, c'est quoi ? C'est une sorte de polyculture élevage, c'est ça ? Tu as eu du végétal et de l'animal ?
Oui, parce que je pense que dans notre façon de faire, à nous, la polyculture élevage, elle se marie très très bien et elle démultiplie le champ des possibles.
Allons faire un tour des champs dans lesquels tout est possible.
Alors, là, vous voyez, on avance, on est en train de passer sous les fruitiers. Alors, chaque arbre fruitier, c'est une variété différente. Ça me permet de montrer à mes clients qu'ici, il n'y a pas une pomme, mais il y en a 10 différentes. Et puis, ça me permet d'éviter d'avoir toutes ces pommes qui arrivent en production en même temps. Et après, il faut les écouler dans la semaine rapidement. Moi, j'ai des variétés précoces, des variétés de saison, des variétés tardives. Et ça me permet à montrer à mes clients qu'il n'y en a pas une, qu'elles ont des goûts différents, des utilisations en cuisine différentes, etc., etc.
Voilà. Tous les fruitiers que je vois là, c'est toi qui as planté des graines il y a 11 ans de ça ?
Ouais, je les ai plantés pas à l'état de graines, mais en l'état de ce qu'on appelle de sion, avec des pépiniéristes qui ont fait l'élevage depuis la graine. Moi, j'ai pris l'arbre quand il était âgé de 1 an ou 2 ans, entre 1 et 3 ans en fait. Et puis, c'était donc maintenant, là, ceux-là, tu vois, ils ont 12 ans, ils ont été bien formés. Nous, on les a taillés chaque année. Donc, en plus, ils nous font de l'ombre, c'est bien agréable pour manger quand il fait chaud chez nous. En face, tu peux voir les champs. Alors, on voit bien que notre unité de culture à nous, c'est pas le champ complet. On n'a pas besoin d'un hectare de courgettes qui arrive en même temps. Notre unité de culture à nous, c'est la planche. C'est-à-dire une petite surface de légumes qu'on va mettre entre 1 et 4 mois à faire pousser. Et après, en 3 semaines, la planche, elle est partie. Et on remet autre chose à la place. Voilà, ça nous donne.
Au même endroit, non ? Tu disais, tu fais du compost végétal. Donc, de temps en temps, tu as une rotation des cultures où tu laisses le sol se reposer en mettant de l'engrais vert, tu parlais, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va dire, on a entre le mois d'avril et le mois d'octobre, on va faire jusqu'à 3 plantations sur ce carré de sol-là. Un cycle long et 2 cycles courts. Ça donne un rythme assez intensif. Et après, du mois octobre jusqu'au mois de mai, là, on implante l'engrais vert. Alors, l'engrais vert, c'est un mélange de céréales et de légumineuses qu'on va laisser pousser et puis qu'on va faucher au fur et à mesure pour qu'elle se dégrade dans le sol. En se dégradant, la céréale, avec ses racines puissantes, elle va m'oxygéner et ramener de l'air dans le sol. Et puis la paille qu'elle ramène, ça fait beaucoup de matière organique. Donc on arrive un peu comme un sol de sous-bois où la matière organique se dégrade. Ça réintroduit la vie dans le sol. Et puis la légumineuse, c'est la seule famille de plantes qui peut fixer l'azote atmosphérique. Et quand on va la faucher, elle va se dégrader et libérer cet azote qu'elle a fixé. Ça fait un effet fertilisant. Et mine de rien, avec ces engrais verts, j'amène la moitié de mes éléments fertilisants de l'année.
Okay. Et pour l'eau, comment tu fais pour l'eau ?
À l'eau, on l'entend peut-être pas encore d'ici, mais on est juste à côté de la rivière qui s'appelle le Lez. Et donc on est à 50 mètres du Lez et ce Lez nous fournit toute l'eau dont on a besoin. Les sources en plus sont juste à 1,5 km, donc on a une qualité d'eau qui est exceptionnelle. C'est grâce à elle qu'on peut avoir tout ce maraîchage à Lutin Jardin.
Excellent. Lutin Jardin. Ah, alors là, on voit quelque chose qui est très à la mode en ce moment, la baie de goji, c'est ça ?
Ah, ben, Je vois que vous êtes déjà spécialiste en la matière parce qu'il n'y a pas tant de gens qui connaissent la baie de Goji. Alors là, vous arrivez en plus en plein bon moment parce qu'on vient d'avoir les premières fructifications. Et la baie de Goji, c'est comme avec le raisin sec. Tenez, hop, allez-y, on va déguster. Hop, voilà, la baie de Goji, c'est comme la même différence qu'il y a entre un raisin sec et un gros grain d'Italia bien mûr. Quand on a commencé à goûter la baie de Goji fraîche, on peut plus forcément revenir en arrière. Et puis vous savez que le goji, il est cultivé pour ses vertus. Dans un gramme de goji, il y a 300 fois le taux de vitamine C qu'il y a dans un gramme d'orange. Il y a en plus énormément d'acides aminés essentiels à la vie humaine, ce qui fait une plante santé exceptionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est demandée dans l'Europe, de partout. Nous, ici, on la cultive pour une auto-utilisation. On laisse nos clients grappiller, goûter. On la vend quasiment pas. Ça fait partie du plaisir de la visite. Voilà.
Et donc pouvoir aussi recréer une sorte de biodiversité, hein, avoir différentes espèces sur un même lieu.
Absolument. Et puis aussi cette idée que l'exploitation agricole, ce n'est pas qu'un lieu de production. Ici, nous, on est en agriculture périurbaine. Et nos gens donc viennent chercher le panier. Le panier, il est donné en 5 minutes. Mais le temps sur l'exploitation, c'est à peu près 3 quarts d'heure. On a ouvert à tous nos clients et à tous les visiteurs l'étendue de la ferme. Et donc les gens peuvent s'y balader pour plein de fonctions. Ça peut être la fonction récréative, la fonction je sors du travail et je vais me détendre un quart d'heure, 20 minutes dans un lieu qui est proche de la nature. Mais c'est aussi la fonction pédagogique. Les gens viennent montrer à leurs enfants. Aujourd'hui, on a plus de facilité à aller montrer un lion ou une panthère au zoo que de montrer un mouton ou une poule parce qu'il faut connaître quelqu'un qui en a là. Donc on laisse cette possibilité-là et on considère que la ferme, en plus de l'activité économique qu'on y génère, elle peut servir aussi à beaucoup d'autres fonctions pour le territoire. À la fois une fonction de protection environnementale, parce que notre pratique agricole ici fait qu'on est non polluant et donc on va protéger et on va même améliorer les qualités des sols pour les générations futures, mais aussi un lieu de détente, un lieu d'éducation, un lieu de plaisir et de promenade.
Avec l'eau bleue turquoise de la rivière, je vois des toilettes sèches. Là, c'est quoi, là, c'est le petit lieu où on vient se reposer pendant la visite du jardin?
Alors voilà, là, c'est le lieu boisé de bord de la rivière. Voilà ce que vous voyez en face de vous, cette espèce de retenue d'eau. Elle est toujours en eau, même dans les moments les plus secs de l'été. Donc c'est grâce à cette réserve d'eau que nous, on peut arroser nos cultures. Et du coup, comme c'est grâce à elle qu'on est là, on s'est tout de suite posé la question de comment on va la protéger, cette ressource, et comment ceux qui viendront derrière nous pourront eux aussi pouvoir l'utiliser. Alors on a plusieurs stratégies. La première, c'est que toute notre ferme est en goutte à goutte. On voit tout de suite la différence d'utilisation de volume d'eau qu'il y a entre le goutte à goutte qui tombe au pied de la piante et un canon en eau qui tire je ne sais pas combien de litres à chaque fois. Et la deuxième protection, c'est qu'on est en agriculture bio, et donc quand l'eau de pluie va filtrer à travers nos sols, elle ne va pas se charger de produits chimiques qu'elle va ramener dans la rivière juste à côté. Et une des troisièmes utilisations, mine de rien, c'est nos toilettes sèches. On est ici 7 personnes à travailler sur 4 hectares. Si on considère que chaque personne va au moins une fois par jour au petit coin, et qu'à chaque petit coin, c'est 15 litres d'eau économisée, et bien mine de rien, tous les jours, on économise plus de 120 ou 130 litres d'eau, juste parce qu'on a ces toilettes sèches-là, quoi. Et donc ici, on a le lieu un petit peu d'accueil qu'on laisse à disposition de nos clients qui font la visite. Ils peuvent venir prendre le goûter. Donc on a ces espèces de canapés qu'on a auto-fabriqués avec des palettes, quoi. Les gens peuvent se stationner dessus, prendre le goûter avec les enfants. Et c'est aussi l'endroit où on reçoit tous nos groupes scolaires. Parce qu'en plein été, ici à Montpellier, ça tombe du cagnard, comme on dit. Et c'est ici que donc, c'est le lieu le plus frais, le plus agréable pour discuter avec les enfants, se réunir, etc.
On continue la balade, on va se rapprocher de là-bas. Je devine des cages. La surface, donc en fait, c'est à peu près tout ce qu'on voit. Ça part du parking. En surface, t'as quoi là, en superficie?
Alors on a cette première parcelle là, fait 5000 m2, la parcelle avec les serres au-dessus 1 hectare 2, et celle qu'on va voir à côté 2 hectares 3, ça fait un total de 4 hectares. Okay. Voilà.
Avec 4 hectares, tu fais vivre combien de personnes, tu disais, sur le site?
Alors 4 hectares, on a environ 150 familles par semaine, 150 paniers par semaine, plus le marché de Montferrier où on a quand même quelques clients, plus la vente directe à la ferme, les gens qui sont pas en panier et qui viennent composer eux-mêmes, plus trois restos gastro sur le territoire qui viennent aussi chercher nos produits. Donc, en gros, la totalité de nos productions, on n'a pas de rab, hein. La totalité part dans un rayon de 15 km autour de la ferme. Et avec ces débouchés-là, on valorise toute notre production.
Est-ce que tu as conscience d'être un super-héros, là, d'arriver à nourrir autant de monde? C'est incroyable.
Ben, c'est ce que les gens disent, ils en sont très contents. Moi, j'ai vraiment pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. Au contraire, j'ai plutôt l'impression de faire mon travail. C'est-à-dire, ben, aujourd'hui, le paysan, qu'est-ce qu'il fait? Depuis la nuit des temps, le paysan, il nourrit les gens, quoi. Donc je suis parfaitement à ma place et je nourris les gens du mieux que je peux avec tout mon sérieux. Et quand je dis moi, c'est surtout aussi mes équipes et mes employés, parce que Lutin Jardin, c'est grâce à tout ce monde-là qui travaille, quoi.
J'aime bien cette notion, le mot paysan. Tu vois vraiment une évolution dans la mentalité des gens où pendant longtemps ce mot était quelque chose de péjoratif. Qu'est-ce que c'est que pour toi un paysan? Qu'est-ce que tu entends par paysan?
Ah ben moi, pour paysan, c'est un des maillons essentiels de la survie de notre espèce. C'est-à-dire, c'est le paysan, c'est celui qui produit l'alimentation. Et donc aujourd'hui, on a quand même, si on se recentre sur nos besoins vitaux, c'est pas le smartphone ou le portable ni la tablette. Quand même, le besoin vital aujourd'hui, c'est de pouvoir manger sain, de pouvoir manger nourrissant, de pouvoir boire de l'eau non polluée et de pouvoir respirer. Une fois que ça, c'est en place, déjà, c'est pas mal. C'est une bonne... Et le paysan, moi, je trouve que c'est le premier maillon de cette survie-là.
Mais quand tu dis donc boire de l'eau non polluée, respirer de l'air pur et manger sain, quand on regarde le contenu de nos assiettes, on en est loin.
Ouais, on est un peu parti en sucette par rapport à cet objectif-là. Alors, on va pas refaire l'histoire et moi, je veux pas non plus critiquer sur le pour quelles raisons on en est là. Historiquement quand même, il a fallu que cette agriculture de la révolution verte sorte la France du ticket de rationnement de l'après-guerre on doit au moins lui rendre cet effet-là, c'est-à-dire que on a pu derrière la guerre commencer à nourrir tout le monde, on a pu s'en remettre, etc. Bon, mais avec l'avancée dans le temps, ça évolue. Aujourd'hui, on se rend compte que les fertilités des sols déclinent un petit peu, qu'on s'est, grâce à cause de l'agro-industrie, un petit peu éloigné de cet objectif de se nourrir comme il faut, et que dès que des gens ont vu qu'on pouvait faire de l'argent avec l'alimentation, on a commencé à s'écarter un petit peu de l'objectif premier. Alors, on peut aujourd'hui décider peut-être de rebattre un peu les cartes. Moi, c'est ce que je fais, j'essaye de redéfinir un petit peu le métier de paysan. Pas pour le refaire comme on faisait avant, parce que ça, c'est ridicule, mais pour le faire de façon la plus moderne possible, mais quand même pour se recentrer sur l'objectif de dire on sort une alimentation saine dans tous les sens du terme. Et puis après, on a quelques petits animaux, ici les lapins, la tortue qui est là dans la cage, pour initier un petit peu, c'est des animaux faciles à s'occuper, pour montrer et initier chez les enfants qu'est-ce que c'est le soin animal, qu'est-ce que c'est s'occuper. Et puis ici, les lapins particulièrement, on montre deux types de lapins. Ceux-là, vous voyez, bien gros et bien beaux, c'est les lapins de race à viande. Et là-bas, c'est les lapins d'ornement, comme on peut acheter maintenant dans les jardineries, etc. Nous, on montre la différence parce qu'on est prêt ici à produire du lapin en bio. On a la compétence, on a les surfaces. Il nous manque une chose, c'est qu'on n'a pas d'abattoir agréé. Et alors, on pourrait construire notre abattoir, mais nous, le lapin, c'est un atelier complémentaire. Notre première activité, c'est le légume. Faire un abattoir à l'échelon ici de la ferme, ça coûterait entre 80 et 100 000 euros.
C'est vrai que c'est une réalité en France. Les gens n'ont pas forcément conscience, mais tu ne peux pas, en tant que producteur, abattre ton veau, ton cochon, ton lapin ou ta poule.
Non, non, absolument pas. On fait les choses correctement. Et donc, il y a des normes, il y a des lois qui visent à... Elles sont pas là pour rien. Elles sont visent à protéger le consommateur du risque potentiel de maladies, de problèmes dus à la qualité de l'abattage et à la rupture de la chaîne du froid derrière. Donc nous, on fait les choses dans les règles. On a besoin des fois que le territoire vienne à notre secours. Et on a besoin d'équipements collectifs. Ça peut être des équipements de matériel, ça peut être des abattoirs.
On continue la visite de la ferme. Je vois une yourte là-bas derrière.
Un yourte en construction parce que... Ici, on est en périurbain, on est au bord de Montpellier, et avant tout problème de pollution, tout problème de ravageurs, d'insectes, etc., notre première grief ici, c'est le vol. Et donc, pendant la saison, la pleine saison, ma famille et moi qui ne pouvons pas habiter sur place, parce que là encore une fois il y a eu un problème, c'est-à-dire que l'urbanisation galopante a repoussé les lieux de production dans les zones qui par définition n'étaient pas constructibles. Donc aujourd'hui les agriculteurs se retrouvent à travailler des terres où ils ne peuvent pas habiter. Et c'est vraiment problématique parce que ben, moi tout l'été il faut que j'habite sur place, donc comme je ne peux pas construire de maison ni rien, ben, j'ai choisi un habitat nomade.
J'ai pas pensé à ça, donc le vol est un problème, les gens viennent se servir directement dans les champs.
Ah ouais, alors avant c'est le phénomène qu'on appelait le grappillage. Alors ce grappillage il existe toujours mais il a changé d'échelle. C'est-à-dire, avant on grappillait avec un petit sac plastique pour ramener trois fruits à maman, machin, bon, fait partie du jeu. Maintenant, on grappille au coffre de voiture et on va revendre ça aux puces à Montpellier sur le parking, quoi. Bon, après, en occupant les lieux et puis en habitant un peu sur place avec les enfants, bah, finalement, les gens se rendent compte que bon, c'est un peu plus compliqué de venir voler. Et là, maintenant, la pression un petit peu a diminué. Mais il faut toujours rester vigilant, quoi. On a des voisins, des collègues qui sont aussi en périurbain, à une dizaine de kilomètres. Ils se sont fait voler plusieurs agneaux, plusieurs chevreaux quand c'est la saison. Parce qu'aujourd'hui, le légume bio, il a une vraie valeur. Entre le valeur à la revente, on le voit bien, on voit les prix augmenter chaque année dans les boutiques en bio. Aujourd'hui, ça vaut de l'argent, quoi. Et puis surtout que la demande, elle est exponentielle, quoi. De plus en plus de gens qui en veulent et l'offre n'augmente pas aussi vite que cette demande. Donc l'un dans l'autre, ça fait que ça vaut quelque chose. Quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
On me dit souvent que la plus grande problématique de ceux qui veulent se lancer dans un projet de maraîchage, c'est l'accès au foncier.
Oui, absolument. Moi, par exemple, si je reprends mon exemple, j'ai passé mon diplôme, j'ai commencé à chercher mes terres, j'avais rien. Et donc, j'ai commencé à chercher mes terres au moment où j'ai commencé ma formation. Ma formation a duré un an et j'ai réussi à trouver mes terres un an et demi après la fin de ma formation. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 2 ans et demi pour trouver mes premiers 5000 mètres carrés ici dans une situation périurbaine. Et ça n'a pas été « j'attends que ça tombe hein. ». Je suis allé dans les mairies, j'ai regardé les cadastres, je suis allé sur place, j'ai fait la comparaison avec les parcelles que je voyais inoccupées en essayant de retrouver les propriétaires. J'étais en lien avec la SAFER et les organismes territoriaux qui ont en charge cette mission-là de répartir le foncier agricole. Donc ça a été vraiment le parcours du combattant pour réussir à trouver mon premier morceau de terre. Et je l'ai trouvé en fermage, en location, pas encore à l'achat. Mais bon, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, ça reste un vrai souci parce que on est face à d'autres utilisations, notamment la première qui est l'urbanisation.
Et pourtant, la terre est nécessaire pour nous nourrir tous. On a quand même il faut tous qu'on mange.
Ouais. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on utilise toute notre surface foncière pour habiter ou pour le loisir ou pour le commerce, parce qu'il y a aussi beaucoup de surfaces foncières qui sont développées juste pour le commercial, hein, je pense aux ZAC, etc., etc. L'urbaniste dans tout ça, il a un petit peu oublié la fonction production de légumes. Mais je suis plutôt, j'espère, confiant en l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on a... D'abord, des gens grâce à qui ce problème-là n'est jamais resté secret, hein, les associations, Terre de Liens, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme cause et en défense, ça a permis qu'on en parle. Et puis aujourd'hui, je suis approché par exemple par des groupements de constructeurs, je pense aussi par exemple au groupe GGL ici à Montpellier, qui sont des urbanistes et qui construisent des lotissements. Aujourd'hui, la commande publique leur demande de plus en plus de penser dans leur façon de faire à conserver. On ne construit plus aujourd'hui simplement des quartiers, on construit des éco-quartiers et on construit des lieux où on va mixer l'habitation avec la zone de production et donc la zone d'alimentation. Ben ça, c'est plutôt une bonne chose. J'espère que les 10 ou 20 années qui viennent vont nous donner de bonnes surprises et de bonnes réinventions de cette façon de faire.
Est-ce que tu vois des jeunes qui arrivent pour te demander conseil, qui veulent eux aussi s'installer en polyculture et en maraîchage ?
Ouais, on en a énormément. De suite, même 2 ans après ma formation, c'est-à-dire l'année quasiment de mon installation, moi... J'ai pu, comme j'ai fait une formation pour adultes, hein, après déjà plusieurs métiers, je me suis aperçu que en agriculture, tout seul, on est foutu. On a vraiment besoin à la fois du territoire, on a besoin aussi des collègues, on a besoin du réseau, on a besoin de tout ça pour pouvoir avancer. Et j'ai voulu contribuer aussi à la transmission et éviter que ceux qui arrivent derrière moi n'aient à réinventer la roue à chaque fois. Donc j'utilise ma ferme comme un lieu un peu expérimental parce que quand même, la première question, c'était est-ce que cette façon de faire de l'agriculture, elle est viable ? L'activité agricole, c'est un métier. Et ça reste une ambition qui permet à celui qui la pratique de vivre de son métier-là. Sans ça, si on n'est pas à cet objectif-là, on n'arrivera pas à avancer. Donc le premier pari, c'était de démontrer qu'en réinventant un peu la façon de l'agriculture, on pouvait conserver cette notion de viabilité. Et ben aujourd'hui, on commence à y arriver. Alors on commence pas à pas parce que... Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a autant de recettes que de porteurs de projets. Alors c'est ça qui prend du temps, parce que les gens viennent me demander, moi, bon, ben, Yézid, c'est quoi la recette à suivre ? Ben, je dis, la recette à suivre, elle est différente de celui qui porte le projet, de l'environnement où ça se fait, de la localité, de la météo, de qu'est-ce qu'il veut produire, etc. etc. Mais aujourd'hui, on commence à y arriver, et il n'y a jamais eu autant d'ambition et de candidats à l'installation agricole que maintenant. Et c'est là, à mon sens, que les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer. Pour moi, aujourd'hui, la collectivité territoriale, face à cette demande, tout le monde est d'accord. Le politique, aujourd'hui, il veut de l'agriculture bio parce qu'il y a une demande citoyenne qui est très forte et que les citoyens sont aussi des électeurs. Et alors, il y en a qui pensent qu'ils ont raison ou pas, mais force est de constater qu'ils veulent avoir une agriculture biologique, locale, en production sur leur territoire. Sauf qu'on a un peu tendance à croire que pour faire un paysan, il suffit de prendre un carré de sol et de mettre un gars à peu près formé dessus. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut au moins 10 ans d'accompagnement. Il faut que de l'accès au financement. L'agriculture, ça se rapproche aujourd'hui plus, à mon sens, un petit peu de l'industrie que de l'artisanat. Pour faire une exploitation agricole, il va falloir dépenser des fonds, il va falloir amener de l'argent. Parce qu'il faut des équipements, il faut des structures, il faut dépenser du pognon pour faire que la ferme et l'outil de production arrivent à un niveau de viabilité. Et derrière, on va récolter de l'argent, mais par petites gouttes, par bottes de radis après bottes de radis. Donc il y a un besoin de trésorerie qui est quand même énorme. C'est-à-dire, il y a un décalage de 6 mois entre le moment où tu dépenses et le moment où tu rentres l'argent. Et donc, il y a du besoin de financement. Quelqu'un tout seul qui arrive et qui dit « Bon, ben moi, j'ai 10 000 euros, je veux m'installer agriculteur », ben, c'est un petit peu décalé de la réalité de ce que va être son métier. Donc, il y a besoin de formation, il y a besoin d'accompagnement technique pendant au moins les 5 à 10 premières années de la ferme. Il y a besoin d'accès au financement, il y a besoin de facilité sur les flux. Par exemple, la route, vous avez vu, qui vient jusqu'à chez moi, elle est pas évidente à prendre. On a besoin de panneaux pour indiquer aux gens qu'ils peuvent venir à la ferme. On a besoin d'entretenir la route qui vient là. On a besoin de débouchés commerciaux, c'est-à-dire qu'on ait les magasins autour de chez nous qui puissent aussi venir s'approvisionner chez nous. On a besoin de tout ça. Voilà. C'est tout sauf simple.
Yézid, une question que je pose de temps en temps, c'est quoi pour toi la richesse, être riche ?
La richesse, pour moi, c'est avant tout être libre. Libre de aujourd'hui, enfin, ici, libre de pouvoir faire mon métier comme je l'entends. Quand on choisit aujourd'hui d'installer un garage en ville, on ne demande pas à celui qui installe le garage s'il est chez Peugeot ou chez Renault ou chez Mercedes ou chez quoi que ce soit. Pourtant, un agriculteur, on dit dans quel type d'agriculture tu es, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas produire, etc. Non, moi je trouve que là c'est tronqué. Moi je pense qu'on doit faire confiance aux paysans. Non, pour moi, l'agroécologie, elle arrive par l'évolution des pratiques des paysans qui, à un moment donné, se trouvent devant des limites de fertilité, des limites de maladies parce qu'ils utilisent des produits dangereux, etc. Et ils réfléchissent à tout ça et de leur réflexion va naître des changements, des évolutions. Et c'est toute la somme de ces évolutions de pratiques qui, pour moi, aujourd'hui, font l'agroécologie et tout ça. Donc, il faut faire quand même confiance aux paysans. Les gens qui produisent la nourriture ne sont pas tous des voleurs ou des empoisonneurs, quoi. La vraie richesse, c'est de pouvoir exprimer sa liberté dans la façon de faire son métier, pour moi.
Merci à toi.
Eh bien, merci à vous d'être venu de loin pour venir nous voir ici. Et puis, à très bientôt.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.